d'aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. On est vendredi 23 août 2019. Au sommaire, les autorités burkinabées reconnaissent un malaise au sein de l'armée après des tirs sporadiques dans un camp au cœur de la capitale. 27e mois de contestation en Algérie sans aucun signe d'essoufflement malgré la chaleur et les vacances scolaires. Ouverture demain en France du sommet du G7, mais il n'y aura pas de communiqué final. Les perspectives économiques américaines toujours favorables selon le président de la Banque centrale. Un parti magazine, une interview exclusive avec l'ambassadeur des États-Unis au Mali qui revient sur la situation sécuritaire et la lutte contre les djihadistes.
Mieux que nous pouvons aider les Maliens de donner leurs services d'éducation et de santé, moins que les extrémistes peuvent provoquer les populations.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Les autorités burkinabées ont reconnu cet après-midi qu'il y avait un malaise au sein de l'armée après des tirs sporadiques entendus depuis la nuit dernière dans le camp Guillaume, une base militaire située au cœur de la capitale, Bagassikoura.
Des tirs sporadiques ont été entendus peu après minuit au sein du camp Guillaume Ouédraogo au cœur de la capitale Ouagadougou. Après des heures de silence, le gouvernement a reconnu dans l'après-midi l'existence de ces tirs. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, affirme que l'état-major général des forces armées s'est rendu au camp Guillaume et a obtenu le retour du calme. Il ressort des échanges que cette situation est l'expression d'un ressentiment par rapport à l'attaque de Koutougou, a reconnu le ministre. Vendredi, à la mi-journée, plusieurs commerces étaient fermés dans le centre-ville. 24 militaires ont été tués lundi à Koutougou, dans le nord, au cours d'une attaque attribuée à des groupes islamistes, la plus meurtrière jamais perpétrée contre l'armée. Selon des informations de VOA Afrique, les soldats reprochent à leur hiérarchie la mauvaise gestion de cette crise et de la lutte contre le terrorisme. Hier, le président Roch Marc Christian Kabore a décrété un deuil national de 3 jours pour rendre hommage aux soldats tués à Koutougou.
Au Nigeria, 17 personnes ont été tuées dans la collision d'un minibus et d'un camion sur une route du centre du pays. Les autorités mettent en cause un excès de vitesse. Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria en raison du mauvais état du réseau, du non-respect des règles de sécurité et de la conduite imprudente. Au Gabon, l'autorité de régulation des médias a suspendu pour 2 mois l'accréditation du journaliste de Radio France Internationale. Elle accuse Yves-Laurent Goma d'avoir écrit un article, je cite, « mensonger mettant en cause l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba ». La direction de RFI dit déplorer le retrait de l'accréditation de son correspondant pour une durée donc de 2 mois. 27e vendredi de manifestation en Algérie au lendemain de l'entrée du mouvement de contestation dans son 7e mois avec un drame meurtrier pendant un concert de rap. Nathalie Barche.
Le mouvement contre le régime ne semble montrer aucun signe d'essoufflement malgré la forte chaleur et les vacances scolaires. La célébration des 6 mois du Irak, le mouvement de contestation né le 27 février, a été endeuillé hier soir par une bousculade meurtrière à l'entrée d'un concert du rappeur Soul King, adulé des contestataires depuis qu'il leur a dédié la chanson « La liberté ». Les manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes, 5 garçons et filles. La bousculade a eu lieu peu avant le début du concert, alors que le stade du 20 août était comble et que de nombreux spectateurs munis de tickets attendaient encore à l'extérieur. Ce vendredi, les Algériens descendus dans la rue ont exprimé leur colère contre le gouvernement, accusant les organisateurs d'avoir vendu plus de places que le stade ne pouvait en contenir.
Au Soudan, de fortes pluies et des inondations ont fait 54 morts et touché près de 200 000 personnes depuis le début du mois de juillet. C'est ce qu'ont affirmé ce vendredi les Nations Unies. Les intempéries ont touché plusieurs régions, notamment celle du Nil Blanc au sud de la capitale Khartoum. Plus de 37 000 habitations ont été détruites ou endommagées, ont précisé les Nations Unies, citant les chiffres des autorités soudanaises. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU affirme avoir besoin de 150 millions de dollars de dons supplémentaires pour faire face à la situation. La Haute Cour du Malawi a interdit ce vendredi des manifestations prévues la semaine prochaine par l'opposition qui voulait bloquer les aéroports et les frontières pour protester contre la réélection du président Peter Mutharika. L'opposition dénonce depuis son élection des fraudes en faveur du président donc Mutharika. Les 356 migrants africains qui patientaient depuis 2 semaines à bord de l'océan Viking ont éclaté de joie ce vendredi à l'annonce d'un prochain débarquement à Malte. Plus tôt le matin, le premier ministre maltais Joseph Muscat avait annoncé qu'un accord européen avait été trouvé pour le débarquement à Malte et la prise en charge de ces migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire affrété par Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. Ils seront répartis entre 6 pays européens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du G7 se retrouvent ce week-end à Biarritz, dans le sud de la France, pour leur sommet annuel. La particularité cette année, c'est qu'il n'y aura aucun communiqué commun à la fin de la rencontre. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'annonce a été faite par le président Emmanuel Macron. C'est une première dans l'histoire du G7. Le président français justifie l'absence de communiqué final par les divergences entre son homologue américain et les autres dirigeants sur des questions comme l'Iran et le changement climatique. Les dirigeants du G7 discuteront principalement de la lutte contre les inégalités, mais les incendies en Amazonie s'inviteront à la table, tout comme l'accord de Paris sur le changement climatique et celui sur le nucléaire iranien. Washington s'est retiré de ces 2 accords. Les ONG du réseau Action Climat boycottent la rencontre, s'estimant être mise à l'écart. Emmanuel Macron a reçu ce vendredi le chef de la diplomatie iranienne et dit vouloir ramener Téhéran au respect de l'accord, fragilisé par le retrait américain. Donald Trump a encore déclaré être favorable au retour au format du G8 avec la réintégration de la Russie écartée en 2014 après l'annexion de la Crimée. Moscou n'a pas exprimé son désir de revenir dans le groupe. Mardi, le président Vladimir Poutine a rencontré son homologue français.
Environ 300 personnes se sont rassemblées ce vendredi devant l'ambassade du Brésil à Londres, appelant à sauver l'Amazonie ravagée par des incendies. De son côté, le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit extrêmement préoccupé par la situation en Amazonie. Selon l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, il y a près de 2500 nouveaux départs de feu en l'espace de 48 heures dans l'ensemble du Brésil. La déforestation, qui avance rapidement, est la principale cause des départs de feu. Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a promis ce vendredi d'agir pour soutenir l'expansion de l'économie américaine, mais a prévenu que la Fed n'avait pas de mode d'emploi tout prêt pour faire face aux tensions commerciales. Le point avec Ekiabadou.
Si les perspectives économiques américaines restent favorables, Jerome Powell a décrit dans un discours à Jackson Hole, dans le Wyoming, une aggravation de la situation internationale en partie due aux incertitudes commerciales. Pékin vient d'ailleurs d'annoncer son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars de produits venant des États-Unis d'ici la fin de l'année. Monsieur Powell a noté que les tensions commerciales semblaient jouer un rôle dans le ralentissement mondial et la faiblesse du secteur manufacturier et des investissements des entreprises aux États-Unis. C'est dans ce contexte qu'il a prévenu que la politique monétaire n'avait pas de mode d'emploi tout prêt. À l'international, Monsieur Powell a dressé une longue liste d'obstacles économiques, citant les nouveaux signes de ralentissement en Allemagne et en Chine, mais aussi les circonstances géopolitiques comme la possibilité grandissante d'un Brexit dur ou encore les tensions à Hong Kong et la crise politique en Italie.
Aux États-Unis, toujours un quatrième candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020 a annoncé son retrait de la course. L'élu du Congrès, Seth Moulton, un vétéran de la guerre en Irak, se retire donc de la course après le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, l'ex-gouverneur du Colorado, John Hickenlooper, et l'élu de Californie, Eric Swalwell. Avec ce nouveau forfait, il reste encore 21 candidats à espérer emporter l'investiture démocrate et affronter Donald Trump en novembre 2020. L'ancien vice-président Joe Biden reste en tête des sondages au niveau des démocrates. Et puis l'université de Glasgow a lancé ce vendredi un projet destiné à lever 20 millions de livres pour mieux faire connaître l'impact de l'esclavage après en avoir bénéficié via de généreux donateurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Tenke Fungurume, propriétaire de la société molybdène de Chine qui exploite l'une des plus grandes mines de cuivre et de cobalt de la République démocratique du Congo, affirme avoir manqué à ses objectifs de production et opérer à perte. La mine blâme les prix glissants du cuivre et du cobalt ainsi que la lourde charge fiscale résultant du nouveau code minier de la RDC qui a augmenté le taux d'imposition du cobalt. La société incrimine également des pannes de courant, des problèmes d'équipement et une dégradation de la teneur du minerai. Tenke Fungurume Mining est détenu à 80% par Molybdène de Chine et à 20% par la GK Mine, la société minière nationale du Congo. Le conseil d'administration de la Banque américaine d'import-export va voter dans 35 jours un prêt direct de 5 milliards de dollars pour le développement d'un projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique. La transaction soutiendra les exportations américaines de biens et de services destinés à l'ingénierie, à la passation des marchés et à la construction de l'usine de gaz naturel liquéfié onshore et des installations situées dans la péninsule d'Afungi dans le nord du Mozambique. Pour terminer cette minute éco, le bénéfice annuel de la société sud-africaine Nortam Platinum s'est multiplié par 3 grâce à une flambée des prix des métaux, une réduction des coûts et une amélioration des performances.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les Jeux africains se poursuivent au Maroc avec l'épreuve attendue du triple saut.
Un nom résonne sur le continent dans cette discipline, celui de Fabrice Zongo. Le Burkinabé détient le record du triple saut en Afrique, lui qui est passé à côté de son objectif aux précédents Jeux africains à Brazzaville. Cette fois-ci, il compte frapper fort. Depuis Rabat au Maroc, voici la correspondance de Kader Traoré.
Le triple sauteur burkinabé Fabrice Zango sera l'une des grandes attractions de ces 12e Jeux africains. Champion d'Afrique de la discipline et détenteur du record continental avec un bond de 17,50 m, il n'a qu'un seul rêve, remporter la médaille d'or à Rabat. Pour cela, l'athlète de 26 ans ne veut pas rater le coche comme ce fut le cas en 2015 à Brazzaville au Congo.
2015 a été assez difficile à digérer parce que je suis arrivé 5e aux Jeux africains et ça, franchement, je ne l'ai pas digéré. Cette année, l'objectif sera clairement de ramener la médaille d'or.
Mais avant de se lancer dans le stade Moulay Abdallah de Rabat, Fabrice Zango va participer à l'étape parisienne de la Diamond League. Ce sera le samedi 24 août. Il est attendu au Maroc le dimanche 25 août et démarrera la compétition le mardi 27. Kader Traoré, Rabat pour VOA Afrique.
Match retour des préliminaires en Coupe CAF ce week-end.
Après la première manche disputée les 9, 10 et 11 août dernier, les équipes engagées vont à nouveau se produire, soit pour confirmer le résultat de l'aller, soit pour refaire leur retard ou pour créer l'exploit. Maranatha FC du Togo, après sa belle victoire 3-0 à l'aller, doit confirmer au Libéria ce dimanche. La même chose pour l'équipe algérienne de Paradou AC devant CI Kamsa. Du suspense par contre dans les matchs Maniema Union Pélican. Al-Ettihad Tripoli, Union Sportive Gendarmerie Nationale. Ces derniers matchs se sont soldés sur le score d'un but partout.
Au programme aussi, les matchs retour des préliminaires en Ligue des Champions.
Opération rachat pour le club sud-africain de Mamelodi Sundowns qui a perdu à l'aller 1-2 face à l'AS Otto-Odoyo du Congo. Même objectif pour Génération Foot du Sénégal tombé 0-1 au Libéria face aux Oilers. L'étoile sportive du Sahel en Tunisie est dans la même logique. Elle qui a perdu 1-2 devant Afia FC de la Guinée. Pas grand-chose à faire pour le Zamalek en Égypte, vainqueur 7-0 de Dekadaha FC en Somalie. Suspense entre le Raja Casablanca et Bikama United. Après le match nul 3-3 en Gambie, l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo retient son souffle après son 0-0 face à l'USM Loum au Cameroun. Raimo FC du Burkina Faso, vainqueur 1-0 à Ouagadougou, voudra confirmer devant le géant Enimba FC du Nigeria.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Ce matin, l'ambassadeur des États-Unis au Mali a visité le bureau de la Voix de l'Amérique à Bamako. Dennis B. Hankins a accordé une interview à notre correspondant Kassim Traoré, dans laquelle il parle de la situation dans le centre du Mali, la coopération entre Washington et Bamako, ainsi que la mission des Nations Unies au Mali MINUSMA. Écoutons Dennis B. Hopkins.
Presque toutes les activités des États-Unis, c'est entre le lutte contre l'extrémisme et le lutte contre le terrorisme. Et dans ce sens, même nous voyons que les extrémistes dans le centre, ils ont profité des faiblesses. Et nous savons que la sécurité, de sécuriser la région, c'est pas seulement une question des militaires, des polices, mais aussi des questions des services de base. Dans ce sens, mieux que nous pouvons aider les Maliens de donner leurs services d'éducation et de santé, moins que les extrémistes peuvent provoquer les populations.
Estimez-vous que vous faites assez pour résoudre cette crise?
Je pense que nous faisons notre maximum, mais le fait qu'il y a toujours une crise, ça veut dire que soit nous, soit les Maliens, soit les autres partenaires n'ont pas encore fait suffisant, parce qu'il y a toujours une crise. C'est dit, je vois que pendant le dernier mois, les activités du gouvernement au centre, nous devons saluer. Il y avait renforcement de présence sécuritaire. Les deux visites du Premier ministre étaient bien notées. Avec tous nos contacts dans la région centrale, ils ont bien apprécié la visite du gouvernement parce que ça a montré vraiment les actions du gouvernement pour le centre. Et le fait que le Premier ministre n'a pas seulement parlé avec les polices et les militaires, mais vraiment avec toutes les communautés, de voir quels sont les problèmes de base.
Est-ce que vous estimez que le gouvernement malien fait assez pour mettre fin à la crise au centre?
Je dirais que pendant les derniers deux mois, j'ai vu des vrais efforts. Même que je vois que les ressources, la forme, si on parle en termes sécuritaires, les équipements, la formation, la capacité de maintenir les troupes dans la région, c'est limité, même qu'en voyant que c'est la moitié des forces de combat qui sont maintenant au centre. Alors le gouvernement a vraiment fait leur engagement. C'est pas suffisant maintenant. Comme j'ai dit, nous voyons une fenêtre d'opportunités dans la région. Mais je suis sûr que maintenant c'est la saison de pluie. Quand la pluie cesse, je suis presque sûr que Katiba Massina va faire des attaques. Il va essayer de détruire le progrès qui a été fait. Et nous espérons que les actions du gouvernement, avec notre appui, pour renforcer la capacité de communauté de faire face. Parce que je suis sûr, et je sais que je vois que c'est plus calme dans la région, mais je suis très au courant qu'il y a des personnes qui meurent chaque jour de violence. Et il y a les gens qui veulent manipuler la communauté. Je vois que c'est pas seulement par les terroristes. Il y a les trafiqueurs de drogue, il y a les trafiqueurs de cigarettes qui ne veulent pas la stabilité dans la région. Soit au centre, soit au nord. Il veut l'instabilité parce qu'il peut faire le travail.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Voilà, c'était donc avant l'ambassadeur des États-Unis à Bamako, Dennis B. Hankins, au micro de Kassim Traoré. Et on va maintenant en République démocratique du Congo, où les consultations provinciales sur le document de politique foncière viennent de se clôturer pour le sud Kivu. Mais la complexité des conflits fonciers reste un défi majeur dans la réforme foncière envisagée. Ernest Mouero, reportage.
Ce sont des consultations qui tombent à point nommé, car parmi les problèmes qui divisent la communauté figurent en bonne place les conflits fonciers. Jean Chrysostome Kidjana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile.
Des dossiers que nous recevons quotidiennement dans nos bureaux figurent en première position les conflits fonciers. Et nos attentes sont extrêmement énormes. Et nous sommes en train de vouloir arriver à avoir une loi foncière qui ne va pas être seulement une loi qui privilégie les riches.
Jacques Rouamia est fermé en territoire décalé. Il témoigne comment une famille du terroir a acheté voilà plus de 10 ans de terre auprès d'une famille royale, l'a sécurisée en obtenant un certificat d'enregistrement. Mais après la succession royale, l'acquéreur s'est vu entrer en bataille judiciaire puis politique autour de cette terre. Jacques Rouamia.
Si vous arrivez dans des tribunaux de la province de Sud Kivu, vous verrez chaque fois c'est le problème foncier. Il y a un cas de fait bâtonnier Tabarusha. Il a acheté la concession, ça fait tant d'années. Le chef coutumier qui voulait ravir cette concession, il a perdu le procès. Alors nous ne comprenons pas comment un dossier qui est déjà terminé à la cour d'appel, il y a maintenant l'arrêté qui veut aller délimiter cette concession. Là où la justice a déjà fait son travail, est-ce que les autorités politiques doivent encore aussi aller intervenir?
Des cas similaires sont légion autour du problème foncier au Kivu, notamment des peuples pygmées qui continuent à réclamer des terres là où ils ont été déguerpés pour des raisons d'État. Pour ce faire, la population attend de la réforme foncière dont ces consultations sont une étape importante des voies de sortie au conflit foncier. Pour le professeur Emery Moudinga, chercheur sur les questions foncières, l'optique d'enrichir les documents des politiques foncières à la base est une grande avancée dans le processus des réformes foncières, mais il faut travailler aussi sur l'homme et ses pratiques.
Le processus lui-même, tel qu'il a été conçu, est un processus prometteur parce que pour une fois, toutes les failles qui ont été identifiées au sein de la loi foncière vont être mises en exergue. Mais il y a un manque criant d'éthique de l'agent public. C'est cet agent public-là qui va octroyer sur un même terrain 3-2 certificats, vous voyez. Et donc, il est important que les codes de conduite de l'agent public soient renforcés. Tant que l'interférence politique va continuer à miner la justice, à miner l'administration foncière, on peut beau se réunir dans des cadres comme celui-ci, on peut beau produire des textes juridiques très très clairs, ça posera énormément de problèmes.
Ces consultations sont organisées par la Commission nationale de la réforme foncière. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le président brésilien Jair Bolsonaro, sous forte pression, a même envisagé l'envoi de l'armée en Amazonie pour lutter contre les incendies. Quelques 700 nouveaux feux ont été enregistrés en 24 heures dans ce qui est surnommé le poumon de la planète. Des manifestations contre son gouvernement ont eu lieu à Sao Paulo, Rio de Janeiro et devant des ambassades du Brésil dans le monde. Idriss Fall a recueilli la réaction de Fagundes Ismael. Il est à Rio de Janeiro.
C'est un moment difficile, hein. C'est un moment triste avec ce fort qui se passe là-bas, hein. Pour toute la population qui habite à côté de l'Amazonie, les Indiens, même ici à São Paulo et à Rio, ce fort qui se passe là-bas arrive un peu ici, hein. Mais c'est un problème de la politique qui est aujourd'hui au Brésil. Vous avez un président qui, c'est un président qui s'occupe pas de la question de la forêt. Son ministère et tous les travailleurs, les ministères qui travaillent avec lui, ils sont pas préoccupés sur l'Amazonie. Cet feu là-bas, c'est la cause des agriculteurs et les gens qui exploraient les bœufs à l'Amazonie. Donc, c'est pour ça qu'on avait un problème de cette grande feu à l'Amazonie cette année.
Vous pensez que la faute, c'est le président Bolsonaro?
Oui, c'est le président Jair Bolsonaro. C'est un président qui s'occupe pas de la minorité, des noirs, des homosexuels, des femmes. Et aussi de la nature. Si on n'avait pas ma politique, mais un président qui s'est occupé sur la forêt, on va arriver des problèmes toute l'année. Hein.
Est-ce qu'on sait ce qui a causé les incendies?
Je ne peux pas accuser comment fait le président, parce que le président, il a causé l'organisation qui sont là-bas pour protéger l'Amazonie. C'est deux jours qu'il était sur la télé pour dire que c'est les organisations qui sont là-bas, qui ont mis le feu à l'Amazonie. Moi, je pense qu'il peut être, je ne peux pas accuser quelqu'un, mais c'est des gens qui exploraient les bouts à l'Amazonie, les agriculteurs qui sont là-bas, pas les organisations, comme dit le président.
Et comment les Brésiliens vivent tout ça?
C'est triste, hein? Nous sommes très très tristes. Les Brésiliens et le monde, hein? Parce que l'Amazonie, c'est le cœur de le monde. C'est pas un problème sur le monde brésilien, c'est un problème de le monde. Tout le monde est triste avec ça. Hein? Et principalement les Indiens et la population qui habite à l'Amazonie, les États qui sont à côté. Même à São Paulo, on arrivait des problèmes. C'est un moment difficile pour, pour tous les Brésiliens et aussi pour les entrées du pays à côté de nous. Hein.
Il y a un nuage qu'on voit jusqu'à São Paulo.
Oui, c'est ça. Hein. Moi, je suis à Rio maintenant. Moi, j'étais à São Paulo fait trois jours là-bas. J'ai vu tous les problèmes qui se passent là-bas. Hein. Le président, il me dit que ce n'est pas vrai.
Hein. Est-ce qu'il y a des efforts pour éteindre les feux?
Oui, il y a des efforts, mais ce n'est pas à la cause du président. Il n'y a pas un politique qui s'occupe de l'Amazonie. Au Brésil, on en va arriver de beaucoup de problèmes. Ça, c'est le futur. Avec ce président-là, s'il ne change pas sa politique, pour la forêt, on a arrivé de beaucoup de problèmes sur l'Amazonie et d'autres endroits au Brésil.
C'était Fagundes Ismael, joint à Rio de Janeiro.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En marge de la célébration des 400 ans de l'esclavage, nous vous amenons au Ghana, où cet anniversaire a été surnommé l'année du retour. Le pays accueille ainsi ses fils et ses filles de la diaspora, et parmi eux, deux Afro-Américaines de la ville de Los Angeles. Elles disent effectuer le voyage en terre ghanéenne en vue d'honorer leurs ancêtres et par la même occasion essayer de retrouver leurs racines. C'est une histoire pleine d'émotions que nous raconte Thierry Kaoré.
Au roulement des tambours qui accueille les chefs du royaume Ashanti, Tani Sanchez n'a pas pu contenir ses larmes. Accompagnée de sa fille, cette professeure d'études africaines en Arizona est venue ici au Ghana en l'honneur de son arrière-arrière-grand-mère, Marie-Anne Moss, née dans l'Alabama vers l'année 1838. Déterminée à retrouver ses ancêtres, elle n'a pas hésité à rejoindre le chef Ashanti sur son trône et va même lui poser une question. Tani Sanchez.
Vous feriez un test d'ADN? Vous le feriez vraiment? Parce que ma fille et moi sommes des Sanchez. Je veux savoir qui nous sommes par l'ADN. Ces personnes connaissaient probablement la grand-mère de la grand-mère de ma grand-mère. Je veux dire, ça me laisse époustoufler. Et ensuite, être avec des groupes identifiés par l'ADN, j'ai juste senti que ce n'était pas une coïncidence.
Tani Sanchez a passé beaucoup de temps à rechercher ses ancêtres qu'elle a rassemblés dans un livre publié, mais comme la plupart des Afro-Américains, son passé lointain a été effacé de force par l'esclavage. Ce voyage au Ghana a aussi été marqué par la visite du fleuve à Sinmanso, où les esclaves ont pris un dernier bain avant leur emprisonnement sur la côte. Une visite pleine d'émotions pour Tani Sylvester, la fille de Tani Sanchez.
Quand nous sommes allés à la salle de lavage et avons juste vu comment les esclaves étaient alignés et forcés de marcher très vite pour suivre les surveillants qui étaient à cheval et à dos de mulets, j'ai un peu ressenti le même sol sur lequel ils ont marché.
Les deux femmes se sont ensuite rendues au château de Cape Coast, où les esclaves étaient enchaînés, triés et organisés avant de franchir la porte du non-retour. Pour Tani, la mère, c'est un espoir de retrouver ses ancêtres. Quant à la fille, elle a tout simplement déclaré « C'est chez moi, c'est d'où je viens », avant de quitter le Ghana.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Zainab Abderrahman, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et dans quelques secondes, un autre point sur l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.
VOA Afrique.